Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de cette édition, encore une journée caniculaire ce vendredi dans une large partie du pays, avant une baisse des températures attendue ce week-end. 75 départements restent placés en vigilance orange. Le Conseil constitutionnel valide la loi créant un droit à l'aide à mourir en émettant quelques réserves. Emmanuel Macron a salué une décision qui parachève, je cite, un débat démocratique exemplaire. Et la France a annoncé via le Quai d'Orsay condamner avec la plus grande fermeté l'occupation par des colons israéliens de plusieurs habitations palestiniennes en Cisjordanie. Encore une journée caniculaire ce vendredi dans une large partie du pays, avant une baisse des températures attendue ce week-end. 75 départements restent placés en vigilance orange. Une canicule qui accentue la sécheresse dans le sud-ouest. Un incendie dans les Landes a déjà parcouru 1100 hectares ce matin et a entraîné l'évacuation de plus de 500 personnes sans provoquer de dégâts matériels majeurs à ce stade. Laisse écouter à ce sujet Gilles Clavre, le préfet des Landes.
Ça fait 1100 hectares brûlés à cette heure où on est monté assez fort en capacité côté sapeurs-pompiers à 500 pompiers qui luttent actuellement pied à pied toute la nuit. Bon, une cinquantaine de gendarmes donc, qui ont fait les opérations d'évacuation qui sont déroulées à peu près jusqu'à 1h du matin environ. Colonel, 525 personnes évacuées dans le calme, essentiellement vers Sabre, avec des capacités qui sont suffisantes. On a encore des places supplémentaires disponibles, donc on peut voir venir.
Gilles Clavre, le préfet des Landes. Et un autre incendie est en cours dans l'Aveyron et parcouru déjà 140 hectares. Plus de 170 pompiers restent mobilisés selon la préfecture. Et le feu de forêt au sud de Rennes, à Saint-Just, est toujours actif. Mais sa progression a été ralentie. 230 hectares parcourus selon la préfecture. Le gouvernement réfléchit à des prêts sécheresse pour permettre aux agriculteurs de faire la jonction avec les prochaines productions lorsqu'ils ont perdu le fruit de leur travail, a annoncé la ministre de l'Agriculture, Annie Genevoix, confrère de RMC.
On ne peut pas ne pas être aux côtés des agriculteurs par des aides d'urgence. C'est pourquoi je vais, dans les jours qui viennent, annoncer un plan, un volume d'aide qui sera des préfets dans chaque département pour aider les agriculteurs qui ont des difficultés majeures de trésorerie, pour leur permettre de remettre en production, parce que c'est très important de travailler à la prochaine campagne. Je vais faire évidemment doter, armer puissamment l'indemnité de solidarité nationale pour tous ceux qui ne peuvent pas être assurés par les dispositifs classiques. Nous réfléchissons à un prêt sécheresse pour pouvoir faire la jonction avec les prochaines productions. Mmh. Et puis, lors du prochain budget, nous aurons probablement des propositions à faire en matière de nouvelles mesures fiscales. Mmh. Il faut travailler l'avenir, mais on n'a pas attendu cette crise majeure pour le faire.
Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Dans l'actualité, au moins, France a condamné avec la plus grande fermeté l'occupation par des colons israéliens de plusieurs habitations palestiniennes situées dans le village d'El-Kousra en Cisjordanie, ainsi que les violences contre des civils palestiniens. Elle appelle les autorités israéliennes à arrêter et à traduire en justice les auteurs de ces actes. Et le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé avoir chargé l'armée de préparer un plan qui viserait à transférer à la police l'ensemble des compétences de maintien de l'ordre pour les colons de Cisjordanie occupés. Pas d'apaisement en vue entre les États-Unis et l'Iran. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a menacé l'Iran d'un isolement économique comme le monde n'en a jamais vu, je cite. Nouveau signe donc d'un durcissement de Washington qui promettait pourtant début août un accord imminent pour réouvrir le détroit d'Ormuz. En Afghanistan, il y a 5 août 2021, les talibans s'emparaient de la capitale Kaboul et reprenaient le contrôle du pouvoir. Depuis, le pays mis au ban de la communauté internationale continue de s'enfoncer dans une crise humanitaire. Les femmes et les filles afghanes sont plus que jamais persécutées. La journaliste Élise Bouteur de Dans la maison d'un Liban se rend depuis plusieurs années dans le pays. On l'écoute.
Il y a encore des emplois pour certaines femmes, mais c'est très limité. Notamment, il y a encore des femmes qui ont des business, il y a encore des femmes qui travaillent à l'aéroport, il y a encore des femmes qui travaillent dans le médical, mais il y a beaucoup de restrictions sur comment elles le font. Moi, ce qui me brise le plus le cœur, c'est qu'il y a une crise de dépression et sur la santé mentale des filles qui ne peuvent plus aller à l'école. Enfin, nous, c'est inimaginable. Si à leur âge, on nous avait dit d'un coup, ton avenir, c'est fini. Pas d'études, tous tes rêves, tu les laisses tomber. Et donc, tu as beaucoup plus de chances d'être mariée jeune et d'avoir une vie de femme au foyer. Enfin, c'est inimaginable la douleur que ça donne. Mais j'ai aussi remarqué qu'elles ont une force incroyable à essayer de continuer à vivre, à trouver un moyen de travailler en tant que prof dans une école privée pour le niveau primaire. Moi, ce qui m'a frappée vraiment, c'est la disparition des femmes de l'espace public. Et l'éducation, je ne peux pas assez le répéter parce que pour moi, c'est un drame. Après, il faut se rappeler qu'en Afghanistan, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits dans les campagnes où les filles n'allaient pas à l'école et surtout pas dans le secondaire. Où pour elles, ce qui a changé, c'est évidemment la fin de la guerre, la fin des frappes aériennes, la fin de la peur, la fin du front. Ça ne veut pas dire que le changement est bon pour elles. Mais voilà, il faut se rappeler qu'il y a toutes ces réalités en Afghanistan, que c'est pas monolithique. Ce qui a changé beaucoup aussi, qu'il faut pas oublier, c'est qu'avec les coupes de fonds américains, le soutien humanitaire au pays est tombé. C'est le monde entier, l'Europe, qui aussi ont vraiment diminué leur soutien à l'Afghanistan. Et ça a eu un énorme impact sur les femmes. Par exemple, j'ai fait un gros reportage l'an dernier où c'était sur le fait que dans certaines zones reculées, à cause des fermetures de cliniques, à cause des coupes de fonds américains, les femmes n'avaient plus accès à des sages-femmes dans des lieux reculés. Donc en gros, elles recommençaient à donner naissance chez elles, ce qui est un retour en arrière absolument horrible.
Élise Blanchard, journaliste au micro d'Inès Gilles. Retour en France, c'est une étape majeure pour l'entrée en vigueur de la loi sur l'aide à mourir. Après plusieurs années de débat, le Conseil constitutionnel a validé ce texte sensible qui légalise une forme d'assistance au suicide, voire d'euthanasie, mais avec quelques réserves d'interprétation. Emmanuel Macron a salué une décision qui parachève un débat démocratique exemplaire, je cite, et apporte une garantie essentielle aux concitoyens dans un communiqué. Et une autre loi a été validée par le Conseil constitutionnel, la loi d'urgence agricole. Les volets controversés sur la réintroduction dérogatoire de pesticides interdits ont été validés, jugés suffisamment encadrés. Le Conseil constitutionnel censure la loi qui prévoyait d'interdire l'accès des mineurs de moins de 15 ans aux réseaux sociaux et considère qu'elle porte une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression. À la suite de cette annonce, Emmanuel Macron a chargé le Premier ministre Sébastien Lecornu de travailler à une rédaction juridiquement robuste du texte. On fait le point avec vous, Inès Gilles.
Oui, Nawal, c'était l'une des mesures phares de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, adoptée définitivement par le Parlement le 21 juillet. La loi devait entrer en vigueur le 1er septembre, mais le Conseil constitutionnel vient d'en censurer l'une des principales dispositions. Le texte prévoyait d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, notamment TikTok, Snapchat, X ou Instagram, mais aussi certaines fonctionnalités sociales comme les chaînes de partage et les commentaires sur YouTube, ainsi que certains jeux vidéo en ligne. À la fin du mois de juillet, des députés socialistes et de la France insoumise avaient saisi le Conseil constitutionnel sur l'article 1er consacré à la protection des mineurs, tout en reconnaissant l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le Conseil estime que l'interdiction est trop large et pourrait s'appliquer à des services dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs ne sont pas établis. L'Élysée a immédiatement réagi, vous l'avez dit Nawal. Emmanuel Macron a chargé le Premier ministre Sébastien Lecornu de travailler dans les meilleurs délais à une nouvelle rédaction juridiquement robuste qui tienne compte de la décision du Conseil constitutionnel et du cadre européen. Objectif pour l'exécutif, faire aboutir cette réforme d'ici au printemps 2027. Le Conseil constitutionnel, saisi uniquement sur l'article 1er, ne s'est pas prononcé sur l'interdiction du téléphone portable au lycée à partir du 1er septembre, également prévu par la loi.
Merci beaucoup Inès Gilles pour toutes ces précisions. Et enfin, plusieurs centaines de milliers d'usagers sont concernés par le piratage du système informatique des impôts. Des données de particuliers et de professionnels ont été récupérées. La Direction générale des finances publiques doit communiquer prochainement un bilan complet. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.